France Inter.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. La FNSEA et les jeunes agriculteurs prêts à tourner la page de la crise qui dure depuis plusieurs mois. Mais la Confédération paysanne estime au contraire que le compte n'y est toujours pas. Le ministre Marc Fesneau dit avoir du mal à comprendre l'attitude de certains syndicats. Vous l'entendrez. Nous irons en Espagne où des milliers de sympathisants socialistes ont imploré le Premier ministre Pedro Sanchez de ne pas démissionner. Explication à suivre. Nous serons aussi à bord du Belém, ce trois mâts qui a quitté la Grèce ce matin en emportant la flamme olympique vers le port de Marseille. Et vous, quelles sont les fautes d'orthographe que vous auriez faites ? Aujourd'hui avait lieu la finale nationale de la grande dictée du sport. Reportage de Faustine Calmel à suivre. En rugby, c'est le match du jour. France-Angleterre à Bordeaux, dernier match du tournoi féminin des Six Nations. Seconde mi-temps et les Anglaises mènent en ce moment 35 à 14. Et puis le temps de demain, dimanche, Céline Dacosta, le plus instable sera pour l'est du pays.
Oui, parce que les orages vont se décaler vers ce secteur, vers l'est. Ce sera plus calme, mais encore bien nuageux en revanche à l'ouest.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Voici donc la dernière salve de mesures gouvernementales censées clore la crise chez les agriculteurs. On notera pêle-mêle les 25 meilleures années prises en compte pour la retraite, des exonérations partielles d'impôts pour les agriculteurs les plus endettés, la Banque publique d'investissement, la BPI, prête à garantir les emprunts. Pour la FNSEA, comme pour les jeunes agriculteurs, les deux principaux syndicats agricoles, le compte y est, même s'ils suivront de près la concrétisation de ces dernières promesses. À l'inverse, pour la coordination rurale, le compte n'y est toujours pas. Patrick Legras, le porte-parole de cette coordination.
La crise aujourd'hui ne va pas s'arrêter avec les mesures qui viennent d'être faites. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui des bassines. Une centaine de projets, basés sur quoi ? Sur qui ? 100, c'est quoi ? C'est un chiffre. Peut-être qu'il en faut 80. Peut-être qu'il en faut 120. C'est-à-dire qu'on est encore sur des réglementations basées à Paris, sur un dossier aujourd'hui généraliste, où on se dit, allez, on en fait 100. Bon, ça devrait aller. Et il n'y a toujours pas l'échange terrain. Et ça, tant que les gens et les politiques ne descendront pas sur le terrain pour dire, on le fait ensemble, et qu'est-ce qu'il faut, et à quoi on répond, parce que 100, ça va peut-être convenir, ça va peut-être pas convenir, mais ce qui est certain, c'est pas possible qu'on sorte ça du chapeau parisien.
Voilà, le compte n'y est pas, vient donc de dire ce syndicat agricole, une position qu'a du mal à comprendre le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.
Les défis, on n'a pas parlé des défis climatiques, mais ils sont immenses, il va bien falloir qu'on accompagne nos agriculteurs au travers des politiques européennes ou des politiques nationales. Donc c'est à la fois du temps court et du temps long, cette affaire-là. C'est une crise qui datait, au fond, qui est la sédimentation de difficultés connues depuis 20, 25 ou 30 ans. Là, on a changé le logiciel, au fond, dans notre regard sur ces choses-là, et je pense qu'on a posé de bonnes bases pour réouvrir des perspectives à l'agriculture, parce que le sujet, c'est quand même de donner envie à des jeunes de s'installer.
Marc Fesneau, qui était du voyage aujourd'hui dans la Manche avec Gabriel Attal. Autre dossier suivi de près par le gouvernement, la mobilisation pro-palestinienne et le blocage hier de Sciences Po Paris, soutenu par la France Insoumise. Gabriel Attal a dénoncé ce matin des dérives d'une minorité agissante et dangereuse, une minorité qui veut imposer l'idéologie venue d'outre-Atlantique, a commenté le Premier ministre. D'ailleurs, à Boston, aujourd'hui, une centaine d'individus, considérés comme des manifestants pro-palestiniens, ont été interpellés sur le campus d'une université de Boston. Donc, leur campement est évacué par la police anti-émeute. À trois mois du début des Jeux Olympiques, la flamme est désormais en train de naviguer pour 12 jours en Méditerranée, à bord du Belém. Ce trois-mâts du 19e siècle, et il a quitté la Grèce ce matin, cap sur le vieux port de Marseille, où 150 000 personnes viendront accueillir la flamme le 8 mai. À bord du Belém, donc, parti ce matin, outre l'équipage professionnel, 16 jeunes ont été recrutés pour cette traversée. Des jeunes au parcours souvent chaotique. Et notre envoyé spécial, Jérôme Val, a assisté ce matin en Grèce à leur embarquement à bord du Belém.
Avec leur paquetage sur le dos, les 16 apprentis marins prennent leur quartier à bord du voilier. Comme Sean Caillé, 17 ans, c'est la première fois qu'il prend la mer, après une enfance passée entre foyer et famille d'accueil.
Pour montrer que même si on a eu une enfance difficile, eh bien on peut faire des choses extraordinaires.
Mais cette odyssée à travers la Méditerranée n'a rien d'une croisière. Ils aideront à toutes les tâches pour la navigation. Yacine Nassa et Wari Belkouane sont originaires de Marseille.
On va faire déjà tout ce qui va être manœuvre, On va participer à la vie d'équipage, on va s'assurer au bien fonctionnement du bateau.
C'est difficile de vivre une vie de matelot, de se réveiller à 4h du matin et d'enchaîner sa journée, c'est super difficile. J'espère tomber sur le quart de « je m'endors à 4h ». Et je me réveille à midi parce que c'est la vie d'artiste.
Mais en plus, ils auront les yeux rivés aussi sur l'invité de marque du Bélème, la flamme olympique, Éléonore Budac, 20 ans, vient de la banlieue de Nantes.
Ça m'arrivera qu'une seule fois et on est très fiers. C'est la vision de la France à l'international, c'est la vision des jeunes à l'international, c'est super important. Et on est beaucoup critiqués en ce moment sur l'organisation des JO. Là, c'est le moment de montrer que mais non, ça va le faire et pourtant on est jeunes, on va le faire.
Avec une mission, conduire tout le monde et la flamme à bon port à Marseille le 8 mai.
Et aujourd'hui à Paris, un hommage familial a été rendu à un ouvrier malien mort il y a un an, écrasé par un camion de chantier lors de l'aménagement du bassin d'Austerlitz à Paris. Travaux destinés à rendre la Seine baignable pour les Jeux Olympiques. Sa famille et ses proches donc se sont réunis aujourd'hui sur le lieu du drame pour réclamer, disent-ils, reconnaissance et justice. Une adolescente de 15 ans s'est tuée aujourd'hui en passant à travers le toit d'une usine désaffectée à Unieu dans la Loire. Une autre fille de 17 ans est grièvement blessée dans cette même chute. Les deux victimes sont des pratiquantes de ce qu'on appelle l'urbex, l'exploration non autorisée de friches urbaines. Deux autres jeunes qui les accompagnaient, choqués par l'accident, ont été pris en charge par les secours. Trois jours après une première vidéo, le Hamas vient de publier une deuxième vidéo d'otages. On y voit donc deux otages israéliens enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Cette nouvelle vidéo n'est pas datée et elle intervient sur fond de négociations. Aujourd'hui, négociations sous médiation qatari et égyptienne en vue d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza, en échange donc de libération d'otages. Non, Pedro, ne t'en va pas. C'est en Espagne. Ils ont été cet après-midi des milliers de sympathisants socialistes a imploré le Premier ministre Pedro Sanchez de ne pas démissionner. Un départ auquel le Premier ministre espagnol dit pourtant réfléchir depuis l'ouverture d'une enquête préliminaire visant son épouse pour trafic d'influence et corruption. Le Premier ministre socialiste devrait annoncer sa décision lundi. À Madrid, Marie-Hélène Ballestero.
La journée est historique pour les socialistes espagnols. Ce matin, le parti a tenu un comité fédéral et pour la première fois, le président des socialistes, Pedro Sanchez, n'était pas présent. Ses camarades, à l'image de la vice-présidente du gouvernement, Valeria Jesús Montero, ont tenu à lui montrer leur soutien sans faille.
Président, reste. Pedro, reste. Nous avons besoin du meilleur leader, du plus courageux, du plus énergique, du plus déterminé et du Pedro le plus humain. Courage.
À l'extérieur du siège du Parti Socialiste Espagnol, les militants se sont donné rendez-vous aussi ce matin. Aucun d'entre eux ne veut que Pedro Sanchez s'en aille et ils sont venus par milliers des quatre coins de l'Espagne pour lui dire haut et fort. Dans sa lettre, Sanchez a dénoncé une plainte déposée contre sa femme, basée sur des faits inexistants et une campagne de harcèlement menée par la droite et l'extrême droite. Les militants socialistes comme José Antonio en sont convaincus et appuient à 100% Sanchez et sa femme.
Je suis venu soutenir le président Sanchez pour qu'il continue, qu'il ne parte pas. Courage, il fait du bon boulot et l'Espagne a besoin de lui. Je n'ai aucun doute, il va tenir. C'est un homme très fort.
C'est vrai que Pedro Sanchez a toujours fait preuve d'une grande capacité de résistance, mais mercredi dernier, il avait l'air particulièrement abattu dans l'hémicycle. Les socialistes espèrent que cette fois-ci, il ne va pas jeter l'éponge.
Reportage de Marie-Hélène Ballestero. La guerre en Ukraine, elle passe aussi par une bataille de l'énergie. L'Ukraine affirme avoir frappé deux raffineries de pétrole russes. Et de son côté, la Russie a lancé aujourd'hui une nouvelle attaque massive contre des sites énergétiques, notamment des centrales électriques ukrainiennes. Par ailleurs, l'Ukraine accuse la Russie de vouloir anéantir son réseau ferré pour bloquer l'acheminement de l'aide internationale. La bijouterie Cartier reconnaît une erreur d'étiquetage sur une paire de boucles d'oreilles. Sur Instagram, le prix affiché n'était que de 28$ au lieu de 28 000$. Un client mexicain a immédiatement passé commande, mais la maison Cartier a refusé de laisser partir les bijoux pour ce prix dérisoire. Eh bien, un procès vient de donner raison à l'acheteur qui a donc finalement reçu ces deux boucles d'oreilles Cartier pour 28$, donc, au lieu des 28 000$. Bonne pioche. C'était aujourd'hui la finale nationale de la grande dictée du sport sous la prestigieuse coupole de l'Institut de France, avec un texte écrit et dicté également par l'académicien Éric Orsenna, dicté suivi stylo en main par Faustine Calmel.
Sous la haute coupole de l'Institut et le regard affûté de plusieurs académiciens, les candidats s'installent dans leur fauteuil de velours.
Aujourd'hui, nous avons fait descendre très sensiblement la moyenne d'âge de l'Institut de France.
Le plus jeune a 10 ans, ce sont là des élèves de primaire, collège, lycée, quelques adultes. Éric Orsenna prend place au pupitre.
Ça y est, point d'exclamation.
Petit flottement au démarrage.
Je répète à chaque fois les phrases, vous voulez ? Attends, t'en fais pas, on va s'arranger.
Le texte se veut vif, sportif, incisif aussi envers la ministre des Sports, ancienne joueuse de tennis.
Comparé au marathon, votre tennis, c'est peinard.
Réaction à l'issue avec Myriam, Clarisse et Nathan.
Un peu compliqué, comme tachycardie, je savais pas que ça existait. Délicat quoi, j'ai bien réfléchi, mais bon.
Beyoncé, je savais pas vraiment comment écrire.
On recommence. Les oiseaux gazouillent, même si moins que Beyoncé, point.
Niveau exigeant que défend Éric Orsenna dans le sport comme en littérature.
Moi, si vous êtes prisonnier des écrans, sédentaire, et quand vous êtes prisonnier de votre timidité pour jouer avec les mots, votre vie, elle est beaucoup moins grande que vous pourriez l'avoir. Alors que la culture, c'est être plus que soi-même.
Se dépasser et bouger son corps comme remuer ses méninges, conclut celui qui est à la fois marin et prix Goncourt.
Voilà, et encore fallait-il savoir écrire le nom de la chanteuse Beyoncé avec un E accent aigu. Un mot de tennis avec une victoire de Rafael Nadal au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. À bientôt 38 ans, l'Espagnol qui s'interroge sur la poursuite de sa carrière, vient de battre le 11e mondial, l'Australien Alex de Minaur. Avant de rejoindre le rugby et ce France-Angleterre, dernier match du tournoi Destination Féminin, toujours 35-14 pour les Anglaises, le football avec le PSG qui pourrait être consacré dès ce soir champion de France. Après son match à domicile face au Havre, il suffit d'un seul point aux Parisiens pour décrocher leur 12e titre de champion de France. Un match nul ce soir suffit. Et en cas de titre obtenu dès ce soir, eh bien, le PSG donnera dans la sobriété, Julien Froment.
Ce soir au Parc des Princes, vers 22h55, pas de bamboche, mais une célébration tout de même en cas de titre de champion de France. Paris, qui aurait pu être titré mercredi dernier à Lorient, a vu son sacre retardé par l'AS Monaco, ce qui n'est pas pour déplaire finalement à l'entraîneur parisien Luis Enrique.
C'est quand même mieux que de la prendre dans l'avion en espérant la défaite de l'autre équipe. Ça va être une journée spéciale, c'est le scénario parfait pour célébrer avec nos supporters. Ce genre de match, ce n'est jamais facile, mais il est certain que notre objectif et notre envie de gagner ce match seront les clés importantes pour faire la différence.
Si Paris fait le job, il n'y aura pas de remise de trophée. La Ligue de football professionnel, traditionnellement, organise la cérémonie lors du dernier match à domicile de la saison. Ce sera donc le 12 mai prochain face à Toulouse. Pas de podium ce soir, juste un tour de stade pour communier avec les supporters, mais pas trop, car dès demain matin, les joueurs seront de retour à l'entraînement pour préparer leur demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Dortmund.
Allez, le rugby, c'est promis. On part suivre les dernières minutes de la dernière journée du tournoi féminin Destination France-Angleterre à Bordeaux. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En direct de ce stade Chaban-Delmas rempli de ses 27 000 spectateurs. On les entend derrière vous. Dans quelques minutes, l'équipe gagnante va s'offrir aussi le grand chelem de ce tournoi. Mais que les Anglaises sont tenaces!
Ah oui, elles sont surpuissantes ces Anglaises, elles sont plus efficaces que les Bleus qui essayent pourtant en vain d'emballer le match cette fin de partie. Il reste un petit peu plus de 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Elles essayent mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Le score c'est le même qu'à la mi-temps, 35-14, 5 essais inscrits par les Anglaises, 2 pour les Bleus, et les Bleus qui doivent en plus jouer depuis quasiment le début de la seconde période à 14 contre 15 après une action dangereuse de Asia Khalfaoui, sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre de la rencontre. Résultat, les Bleus à 14 qui tentent, mais pour l'instant elles butent sur le réalisme anglais et les Anglaises qui filent vers un sixième grand chelem ici à Bordeaux. Et vous avez parlé de 27 000 spectateurs, on a le dernier chiffre d'affluence Eric, ce sera 28 063 spectateurs, record d'affluence donc pour un match de rugby féminin en France.
Et bonne nouvelle pour le public qui assiste, mauvaise nouvelle pour les Français, donc les Françaises menaient 14-35 et les Françaises qui ne jouent plus qu'à 14, donc après un carton rouge. C'était Fanny Lechevestrier en direct du stade Chaban-Delmas à Bordeaux. Un dernier mot pour vous dire qu'en Dordogne, il y a 9000 foyers ce soir privés d'électricité après des chutes d'arbres sur des lignes à haute tension, conséquence des orages. Les intempéries devraient se poursuivre dans la soirée. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec une accalmie demain matin sur l'ouest du pays.
Oui, on aura un ciel plus calme et même quelques éclaircies, mais quand même encore beaucoup de nuages, un risque d'averse qui va rester présent des Pays de la Loire vers l'Aquitaine. On aura encore de la neige également sur les Pyrénées. Plus à l'est, là en revanche, ce sera agité, avec dès le matin des orages possibles des Cévennes à la Bourgogne, encore de la neige sur les Alpes, et puis dans l'après-midi, les éclaircies seront plus larges des frontières du nord-est en allant vers l'Auvergne, vers le midi toulousain, toujours pluvieux sur la région Rhône-Alpes et près de la Méditerranée. Plus à l'ouest, le risque d'averse orageuse revient entre les Pays de la Loire et le Poitou-Charente.
Et demain, on va encore gagner quelques degrés.
Oui, surtout le matin, avec une moyenne qui ira de 6 à 12 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 13 degrés en Bretagne, pour la plus basse jusqu'à 17-19 degrés au sud de la Garonne et en Provence.
C'était les prévisions de Céline Dacosta.